un podcast France Culture.
Dans une interview sur le plateau de France 3 en 1992, le romancier Bret Easton Ellis déclarait qu'il était très en colère au moment de l'écriture d'American Psycho. Une rage qui s'incarne dans la folie meurtrière de son héros, Pat Bateman. Ce golden boy new-yorkais reflète le pire de la société américaine des années 80. L'obsession pour les apparences, le culte de l'argent, la déréliction morale. Ces pulsions sadiques nous racontent la violence d'une Amérique qui se décompose. Pour nous accompagner dans l'univers économique de Bret Easton Ellis, nous avons invité Alexia Blin, maîtresse de conférences en histoire et civilisation des États-Unis à l'université Sorbonne Nouvelle, et Pierre Guglielmina, qui est avec nous à distance, auteur et traducteur de plusieurs romans de Bret Easton Ellis, et notamment de son dernier, Les Éclats. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Tom Umdenstock, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Alexia Blin et Pierre Guglielmina.
Bonjour.
Merci Bonjour. Beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Alors j'ai voulu ouvrir cette émission avec cette chanson de Kiss, car la musique est omniprésente dans l'œuvre de Bret Easton Ellis. Dans la société hyper-consumériste dans laquelle évoluent les personnages d'Ellis, les CD sont-ils des objets de consommation comme les autres, Pierre Guglielmina?
Pas pour Bret Easton Ellis. Il en fait un usage extrêmement habile dans tous ses livres, où les titres des chansons et le nom des groupes interviennent de manière tout à fait intelligente et significative. Voilà, il se sert de quelque chose qui est un objet de consommation et il le ranime pour en faire quelque chose de significatif et d'important pour la narration.
Bret Easton Ellis qui a déclaré que le rock avait sauvé sa santé mentale. Est-ce que pour ces personnages, la musique peut être un antidote à la vacuité du monde, Alexia Blin?
Oui, en tout cas, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup et de manière récurrente et qui contribue à créer un univers commun entre les différents livres, puisqu'on a des chansons qui reviennent dans différents ouvrages, les titres des titres de livres qui viennent de titres de chansons, et ça permet de créer un système de référence et un univers commun aux différents personnages.
La vacuité, le vide sont au cœur de ces romans, en particulier de Moins que Zéro, son premier roman qui a été publié en 1985 et qui raconte cette jeunesse dorée californienne qui, dans les années 80, s'ennuie. Écoutez.
J'habite Mulholland. Comme j'appuie sur la touche qui commande l'ouverture de la grille, je regarde la vallée et le début d'un autre jour. Puis je roule doucement dans l'allée circulaire et gare ma voiture à côté de celle de ma mère, laquelle est garée à côté d'une Ferrari que je ne connais pas. Je reste assis sur mon siège pour écouter les dernières mesures d'une chanson quelconque. Puis je descends de voiture, marche vers la porte d'entrée, trouve ma clé et ouvre. Je monte jusqu'à ma chambre, entre, tourne le verrou, allume une cigarette, mets la télé, coupe le son. Puis je vais dans mon cabinet de toilette et prends le flacon de Valium que je cache toujours derrière une pile de chandail en cachemire. Je regarde quelques instants la petite pilule jaune au centre percé, décide que je n'en ai pas vraiment besoin et la remets dans le flacon. Je me déshabille en remarquant que le réveil digital posé sur ma table de nuit est le même que celui de Griffin. Je me dis que j'ai seulement quelques heures de sommeil devant moi avant le déjeuner avec mon père. Je m'assure que mon réveil est bien mis et je m'allonge en rivant mes yeux à la télé, car j'ai entendu dire qu'il suffisait de regarder longtemps la télé pour pouvoir s'endormir. Le réveil sonne à 11h. La radio diffuse une chanson intitulée « Insémination artificielle » et j'attends qu'elle soit terminée pour ouvrir les yeux et me lever. Le soleil entre à flot dans ma chambre à travers les stores vénitiens et quand je regarde le miroir, il me renvoie l'image d'un sourire dément, fêlé. Je vais dans mon cabinet de toilette, j'observe mon image et mon corps dans la glace. Fais une ou deux flexions, me demande si je devrais aller chez le coiffeur, décide que j'ai vraiment besoin d'une séance de bronzage. Pivote sur les talons et ouvre l'enveloppe, également cachée derrière les chandails. Je me prépare deux lignes de coke, achetées à Rip hier soir, les sniffe et me sens mieux. Je descends en Bermuda. Bien qu'il soit déjà 11h, je crois que tout le monde dort encore et je remarque que la porte de ma mère est fermée, sûrement à clé. Je sors, plonge dans la piscine, fais une vingtaine de brasses rapides, sors de l'eau, m'essuie en entrant dans la cuisine. Prends une orange dans le réfrigérateur et l'épluche en remontant. Je mange l'orange avant d'aller sous la douche et m'aperçois que je n'ai pas le temps de faire mes haltères. Je rentre alors dans ma chambre, allume MTV en mettant le son très fort, me fais une autre ligne, puis monte dans la voiture pour aller retrouver mon père.
Une lecture par Diane Devancey de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Bret Easton Ellis a 21 ans au moment de la publication de Moins que zéro en 1985. C'est sa propre jeunesse qu'il dépeint dans ce court récit, Alexia Blin.
Oui, en effet, Bret Easton Ellis est né en 1964 en Californie. Il a grandi dans une banlieue de Los Angeles. Et on retrouve dans plusieurs de ses romans la description de cette jeunesse qui est à la fois, il décrit comme idyllique, comme un moment de l'histoire des États-Unis où il y avait peu de menaces qui pesaient sur la population et sur le futur du pays, qui apparaissait comme plein de possibilités. Et en même temps, il y a cette insatisfaction, cette frustration de la jeunesse des années. Donc là, c'est plutôt les années 70 et début des années 80 qu'il décrit. Et ça revient beaucoup, donc ce qu'on a entendu dans l'extrait, hein, l'ennui, le besoin de consommer de la drogue, la conscience très forte de l'interchangeabilité d'un peu tout autour de lui, du fait que il a le même réveil que son ami, mais ça revient très, très souvent, le fait que tout est identique et l'incapacité de trouver de la satisfaction dans la consommation qui est pourtant omniprésente.
Oui, c'est vraiment une superficialité, un individualisme qui apparaissent dans ce roman et qui sont critiqués par Bret Easton Ellis. Quel rapport est-ce que il entretient avec cette jeunesse qui a été la sienne, Pierre Guglielmina? C'est un mélange justement de critique et de fascination.
Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Quand je me suis réveillé, je savais absolument pas ce que j'allais vous raconter. Il y a tellement de choses à dire. Et puis tout à coup, j'étais encore un peu endormi. Je me suis demandé quel était le titre de l'émission à laquelle j'allais participer. J'ai regardé, j'ai découvert « Entendez-vous l'écho ». C'est seulement à ce moment-là que j'ai su ce que j'allais vous dire. L'émission, en remontant à sa source, ça allait être nécessairement une conversation entre écho et narcisse. Ce narcisse de Bret Easton Ellis, enfin presque, puisque Echo, on sait qu'elle ne fait que répéter les derniers mots qu'elle vient d'entendre. Et le tiers exclu de la conversation dans le mythe, c'est Némésis, la déesse de la vengeance ou du juste ressentiment, comme on voudra, qui punit Narcisse pour avoir repoussé Echo. Némésis vient du verbe némen, qui veut dire répartir, distribuer. Donc la répartition, la distribution, ce sont des catégories économiques fondamentales aujourd'hui. C'est avec cet écho-là que la conversation va avoir lieu, j'imagine. Et vous allez voir qu'il est question énormément de questions de miroir dans l'œuvre de Bret Easton Ellis.
Et oui, vous avez raison de parler de distribution, puisque les inégalités sont extrêmement fortes et elles se renforcent encore dans les années 80, dans cette Amérique de Reagan. On va en parler. Peut-être un mot sur le succès qu'a connu ce premier roman, Alexia Blin. C'est un succès immédiat qui va ensuite permettre à Bret Easton Ellis d'écrire les suivants.
Oui, en effet, c'est un succès très, très important et inattendu, en tout cas tel qu'il le raconte lui. Donc, le livre paraît en 1985, c'est un best-seller immédiat. Et il va être propulsé, donc il est encore en train de faire ses études dans une petite université du Vermont, et il est propulsé au sommet de la pyramide de la hiérarchie littéraire américaine, et il devient très vite une célébrité et très riche. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça, il en parle à plusieurs reprises, notamment le début de Lunar Park, qui est un roman qui paraît en 2005. Il revient, il fait un récit rétrospectif de sa carrière littéraire et il explique ce que ça a changé pour lui, voilà, de devenir une star du jour au lendemain et de devenir riche, et ce que ça a modifié dans son rapport à l'argent. Et en fait, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de lire Bret Easton Ellis quand on s'intéresse à l'économie des États-Unis, c'est que lui-même se crée un personnage, il devient de plus en plus un personnage de ses livres, à travers la richesse et la célébrité qu'il a connue à la suite de la publication de son premier roman.
Et son père, d'ailleurs, je crois, voulait qu'il étudie l'économie, mais lui préfère la littérature.
Alors, c'est ce qu'il raconte, encore une fois, dans Lunar Park, hein, c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas, mais il raconte qu'effectivement, il a une relation très conflictuelle avec son père lorsqu'il est adolescent, et que son père le pousse à faire l'école de commerce de UCLA, donc grande école de commerce. Il ajoute qu'il n'avait pas les notes, mais que son père avait les relations pour le faire rentrer, et qu'un peu par défi, il décide d'aller dans une université où on enseigne les arts et la littérature, non pas sur la côte ouest, mais sur la côte est, et il ajoute une université où on n'enseignait pas l'économie. Et donc il y a l'idée qu'il va se détourner de l'économie, et pourtant c'est là qu'il va écrire son roman, et pourtant c'est là qu'il va devenir riche, et prendre en quelque sorte sa revanche sur son père.
Et il situe ce roman dans un moment économique particulier qu'on va détailler. Justement, est-ce qu'il faut aussi voir cela comme une émancipation, le fait qu'il décide, après Moins que zéro, après Les lois de l'attraction, de situer donc son troisième roman, American Psycho, à New York, plutôt qu'en Californie, Alexia Blin?
Alors, je sais pas si c'est une émancipation. En fait, ça décrit lui-même, à ce moment-là, vit sur la côte Est et passe du temps, vit à New York, hein, une partie du temps, il me semble. Et donc, c'est en fait, en partie, son mode de vie, même si il n'est pas Patrick Bateman, il n'a pas été trader, il travaillait dans la finance. Mais le mode de vie de consommation ostentatoire, très luxueuse, dans le New York des années 80, il l'a connu de première main.
Et je disais que son premier roman lui permet d'écrire tous les autres, ça lui donne une liberté inouïe, c'est-à-dire que je crois qu'il a reçu une avance de 300 000 dollars de la part de son éditeur, Simon & Schuster, pour écrire American Psycho, c'est ça?
Oui, alors c'est assez... Bon, les deux premiers romans se succèdent assez rapidement, hein, puisqu'il y a c'est 1985 pour Moins que zéro et 87 pour Les lois de l'attraction. Au début, il écrit assez rapidement. Les lois de l'attraction sont un succès moindre, mais on continue quand même de lui faire confiance. Il reste cette star, notamment parce qu'il est en même temps qu'un écrivain, une figure publique. Il est dans les tabloïds, il met en scène beaucoup sa personne, et donc il reste très célèbre. Et effectivement, il reçoit une avance très importante. Et ensuite, il va se permettre d'éloigner un peu la publication de ses romans. Il va publier moins fréquemment. Et gagner en fait toujours beaucoup d'argent. À certains moments, même si ses livres se vendent pas beaucoup, il continue à générer quand même de l'argent, et que c'est pour ça que même si il fait un peu n'importe quoi, même s'il se drogue, même s'il est pas fiable, ça il raconte ça également dans Lunar Park, et qu'il n'arrive pas vraiment à assurer les tournées de promo de ses livres, c'est pas grave, il continue à recevoir de l'argent, l'argent continue d'arriver, quoi.
Oui, il dit que même s'il publiait ses notes de cours, cela marcherait, ça serait un succès, ça deviendrait un best-seller. Alors, intéressons-nous à American Psycho, qui est son roman le plus connu et qui raconte l'histoire donc de Patrick Bateman, un golden boy obsédé par les apparences et la richesse matérielle.
J'habite au 11e étage de la tour American Gardens, sur la 81e rue Ouest. Je m'appelle Patrick Bateman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi, en mangeant léger et en faisant de l'exercice chaque jour. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, j'applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Je peux en faire 1000. Après avoir ôté le sachet de glace, j'applique une lotion désincrustante. Puis sous la douche, j'utilise tout d'abord un gel moussant, puis un gommage corps au miel et aux amandes, et un gommage pour le visage. J'utilise toujours un aftershave sans alcool, ou avec très peu d'alcool, parce que ça irrite et dessèche la peau, alors vous vieillissez plus vite. Il existe une image de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction. Mais je n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une entité, quelque chose d'illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chair s'agripper à la vôtre, Vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables. Mais je ne suis tout simplement pas là.
Un extrait d'American Psycho, le film de Marie Aaron, réalisé en 2000 avec Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman, Jared Leto et Willem Dafoe. Ce que traduit ce roman, c'est d'abord le triomphe de l'argent à l'ère du réganisme, Alexia Blanc.
Oui, ça décrit une période particulière dans l'histoire économique des États-Unis, donc qui est le tournant des années 80. Donc le roman est publié en 1991, mais il se situe dans la fin des années 1980. Il n'arrête pas de mentionner, enfin, Reagan est mentionné plusieurs fois dans l'ouvrage, et lui-même, quand il parle du livre, il estime qu'il a voulu décrire à la fois dans Moins que Zéro et dans American Psycho les années Reagan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la période où les États-Unis font la transition d'une économie industrielle vers une économie financière, où progressivement la part de la finance dans le PIB américain et dans l'économie va grossir, ce qui a continué à se produire encore jusqu'à aujourd'hui. Avec un secteur financier qui devient non seulement plus important, mais plus influent, c'est-à-dire qui va déterminer l'orientation de l'économie américaine.
Avec des produits financiers de plus en plus complexes.
Alors ça, c'est une des conséquences. Hein, ce qui se passe dans les années 80, c'est en particulier grâce, on voit, à cause des politiques de dérégulation de l'administration Reagan, mais qui en réalité avait déjà commencé dans les années 1970 sous Carter, qui est donc de permettre à la bourse de multiplier les opérations et aux opérateurs boursiers avec effectivement des instruments financiers nouveaux, de plus en plus compliqués, de plus en plus sophistiqués. Par exemple, ce qu'on appelle des produits dérivés, où on va mettre des options sur des futurs achats d'options, où on va avoir des mécanismes d'assurance sur des opérations financières qui ne se sont pas encore déroulées. Et les banques se livrent à des opérations de plus en plus risquées dans ces années 1980. Et de moins en moins encadré. En fait, les régulateurs auxquels qu'on a désarmé, en fait, c'est ce qui se passe sous l'administration Reagan en particulier, sont de moins en moins à même de toute façon de contrôler ce qui se passe. Et donc ça, c'est des problèmes qui vont apparaître un peu plus tard, en fait, avec les scandales financiers des années 2000 et 2010. On en a moins conscience dans les années 80 et 90, même s'il y a des krachs boursiers assez fréquents. Et donc ces outils, ils sont en plus sous-tendus et ils fonctionnent avec des outils informatiques de plus en plus compliqués, et des modèles mathématisés qui rendent la finance difficile à comprendre, en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît, en fait, en toile de fond d'American Psycho.
Oui, Bret Easton Ellis veut raconter les années Reagan, mais il faut rappeler qu'en réalité, cette déréglementation, elle s'est poursuivie dans les années 90, sous les démocrates, Alexia Blanc.
Ah oui, ça s'arrête. C'est pas quelque chose qui est spécifique aux administrations républicaines. Donc, je l'ai dit, ça commence sous Carter dans les années 70, qui était un démocrate. Et ça continue, effectivement, tambour battant sous l'administration Clinton dans les années 90. C'est, par exemple, à la fin du deuxième mandat de Clinton que va être abolie la grande loi du New Deal, le Glass-Steagall Act, qui permettait de séparer les opérations des banques de dépôt et des banques d'investissement et de faire en sorte que, en gros, les dépôts des Américains moyens soient protégés et ne soient pas utilisés dans des opérations financières risquées. Et donc ça, c'est aboli en 1999, donc sous Clinton, mais c'est en fait l'aboutissement d'un processus engagé bien avant.
Et alors dans American Psycho, Pat Bateman travaille dans la société fictive Pierce & Pierce, il fait de la fusion-acquisition. Comment la finance apparaît-elle dans le roman, Alexia Blin?
Alors, je dirais qu'il y a deux manières de voir la finance dans le roman. Il y a il y a un portrait, mais qui est finalement assez vague. En fait, il y a peu de... Bon, déjà, on voit pas Patrick Bateman travailler. Donc, Patrick Bateman ne travaille jamais. Il y a deux scènes, deux chapitres qui concernent vraiment son travail. Un qui s'appelle Au bureau et l'autre qui s'appelle Réunion d'affaires, dans lesquels, en fait, il ne travaille pas.
Il donne des ordres à sa secrétaire, il lit les journaux, il fait les mots croisés, mais voilà, en effet, on le voit jamais.
Il organise des dîners, il organise des soirées. Plus le roman avance, moins il se rend à son travail. Et même, donc au début, il s'en va à 3-4 heures de l'après-midi. Finalement, il arrive en retard et à la fin, il y va plus du tout. Donc il y a cette impression un peu magique du fait que l'argent coule sur lui, mais on ne sait pas vraiment comment il le gagne. Il y a quelques petites références à des produits financiers, aux métiers que font les uns et les autres, par exemple. Mais c'est vraiment très ténu. Il y a un moment assez drôle où il passe des coups de fil anonymes à des jeunes filles en essayant de les effrayer, parce qu'il essaye de se distraire de son quotidien qui l'ennuie, et il dit, pour les effrayer, il dit « je suis repreneur de société, je fais des OPA sauvages ». Donc voilà, et c'est un peu les seuls moments où on voit, et il y a d'autres, voilà, très rares moments où on voit des termes qui apparaissent. Mais en fait, pour moi, la manière plus intéressante dont la finance apparaît, c'est à travers la forme du livre et le style où on voit comment Bret Easton Ellis essaye de saisir le mystère et l'abstraction de la finance en le rendant à travers le style du roman. C'est-à-dire que comme la finance devient, à cause des outils notamment dont on a parlé tout à l'heure, des nouveaux instruments financiers, de plus en plus abstraite, de plus en plus difficile à comprendre, de plus en plus imprévisible, eh bien, lui, il construit un personnage de la même manière, abstrait, on l'a vu avec l'extrait du film, il dit « même je suis une sorte d'abstraction, je n'existe pas », cruel comme peut être la finance, imprévisible comme peut être la finance. Et les meurtres sont en fait, au bout du compte, une sorte de métaphore de la violence financière de la société des années 80, alors qu'il y a par exemple ce qui s'appelle les corporate raids qui se développent dans les années 80, c'est-à-dire la prise de contrôle de certaines entreprises qui ensuite, pour pouvoir enrichir les actionnaires, vont être démembrés. Donc comme ces entreprises sont démembrées fréquemment dans les années 80, Patrick Bateman démembre ses victimes.
Pierre Guglielmina.
Oui, je voulais intervenir pour essayer de donner quelques dates, puisque Bret Easton Ellis écrit entre 1985 et 2023, son dernier roman date de 2023, Mais j'aimerais essayer d'élargir un petit peu le spectre. À la date de 1941, c'est la date à laquelle Jack Kerouac écrit un petit texte. Il a 19 ans. Il écrit un petit texte qui s'appelle Credo, et qui est une sorte de déclaration universelle des droits du Narcisse. C'est-à-dire que tout à coup, Jack Kerouac a envie d'exprimer ce qu'il éprouve à ce moment-là, et il se met en face d'un miroir et il récite ce texte qui est, comme je le disais, une déclaration universelle des droits du Narcisse.
Et Bret Easton Ellis s'inspire de Kerouac et Pierre Guglielmina,
oui,
c'est ça que vous venez de dire?
Oui, bien sûr, oui, il y a une inspiration tout à fait déclarée. Et pourquoi fait-il ça? Parce qu'en 1941, c'est Pearl Harbor, et donc à ce moment-là, on a une sorte de mobilisation générale des États-Unis qui devient une mobilisation mondiale. Et comment réagit la littérature par rapport à ça? C'est-à-dire que par rapport à cette mobilisation générale d'une société entière et d'un monde entier, la seule réponse, en quelque sorte, que la littérature trouve à ce moment-là, c'est précisément de se replier sur une position narcissique, c'est-à-dire où on s'observe, qui est une expression à la fois poétique et imaginaire, qui incarne le refus de cette société industrielle et financière.
Et donc c'est le cas dans les années 80, les personnages de Bret Easton Ellis se replient sur eux-mêmes face à la violence de la société.
Bien sûr, le personnage d'Ellis, moi je crois que l'argent pour Ellis n'a aucune importance, d'abord parce qu'il était riche quand il était enfant, son père était un promoteur immobilier qui avait beaucoup de succès, donc la question de l'argent n'est pas vraiment central pour Ellis, sauf comme sujet pour lui, et c'est pour ça que c'est un observateur absolument exceptionnel de cette affaire, c'est que il n'y a pas d'enjeu pour lui, et c'est pour ça qu'il a cette position extrêmement lucide sur cette question, sur cette affaire d'argent et de puissance économique.
France Culture. Je pensais que c'était un livre expérimental qui serait lu par 5000 personnes, illisible avec des détails de restaurants, de vêtements, de nourriture. J'ai aimé l'écrire, mais je l'ai considéré comme étant un livre pour un public très très restreint. Et c'est le livre qui s'est vendu le plus de tous mes romans.
Entendez-vous l'écho?
Et c'est celui pour lequel je suis plus célèbre. Bah, un écrivain ne sait jamais ce qui se passe. Un écrivain ne sait pas quel est son meilleur livre.
Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à explorer l'économie selon Bret Easton et Ellis avec Alexia Blin et Pierre Guglielmina. Alors, Pat Bateman, héros d'American Psycho, est un archétype des Yuppies, ces young urban professionals. Qui sont-ils, Alexia Blin? Et surtout, quel est leur mode de vie qui est si bien retranscrit dans American Psycho?
Effectivement, donc Patrick Bateman, c'est une des incarnations du Yuppie. Donc ce terme, il apparaît dans les années 1980, en fait. C'est vraiment un condensé. Il apparaît et il représente, il disparaît assez vite ensuite. Et ça désigne donc ces jeunes urbains riches, blancs, éduqués, qui vivent non seulement ils sont urbains, mais ils vivent dans des grandes villes, qui travaillent généralement dans le secteur des services, hein, en particulier dans la finance et dans l'immobilier, et qui ont un mode de vie luxueux et une consommation ostentatoire, qui prennent très soin de leur physique, hein, comme on a pu entendre avec l'extrait d'American Psycho. L'extrait du film, et c'est très présent dans le livre, hein, également. Ils passent beaucoup de temps au salon de massage, à faire du sport. Et à plusieurs reprises dans le roman, il explique à quel point le fait d'être bien, que son corps soit bien entretenu, c'est une expression de son statut social. À un moment, il va dans un salon de massage et la jeune femme qui prend soin de lui lui dit « Ah là là, vous avez le visage tellement lisse, tellement parfait. » Et il dit, il lui répond pas, mais on entend ses pensées. Il dit bien sûr, c'est la manière de montrer que je vis pas dans un camping-car et que je mange pas des travers de porc au barbecue. Et on a vraiment cette idée-là. Donc, l'apparence physique qui traduit le statut social. Et donc, ce terme, il est très en vogue début des années 80. Je crois que c'est en 1984 que le magazine Newsweek déclare que c'est l'année des Yuppies. Et il devient en fait assez vite négatif. Ça devient stigmatisant, en particulier dans le contexte de la transformation des villes. Ils deviennent associés à la gentrification et au fait que les villes chassent les pauvres. Et dans le roman, on voit en fait ce changement de sens. C'est parce que... Et Ellis lui-même, il a une petite distance vis-à-vis de ça. À la fois, c'est son mode de vie à lui, d'une certaine manière. Il a une certaine empathie pour ses personnages. Et en même temps, il les tourne quand même en ridicule.
C'est ça, ils sont caricaturés quand ils échangent des cartes de visite, qu'ils les comparent pendant des heures. Il y a cette obsession pour la façon de se vêtir, pour les costumes, pour la haute couture. C'est un mode de vie et un univers tel que le décrit Bret Easton Ellis, où on peut avoir une crise de nerfs parce qu'on n'a pas obtenu une réservation dans un restaurant, Alexia Blanc.
Tout à fait, ça c'est quelque chose qui est très présent à la fois dans American Psycho et dans d'autres romans, la frustration créée par ce mode de vie luxueux qui peut très vite amener très souvent les personnages sont au bord des larmes, c'est une expression qui revient beaucoup, sont en train de paniquer parce que voilà, ils peuvent pas rentrer dans le restaurant où ils veulent, parce que quelqu'un, Patrick Bateman par exemple, est très très angoissé par le fait d'avoir de pouvoir montrer qu'il a une carte American Express Platine. Et fait des crises d'angoisse quand il voit d'autres personnages qui en ont une également. Bon. Et ça, cette fascination pour le Yuppie, à la fois positive et négative, on la voit aussi à travers la figure de Trump, qui, donc Donald Trump, dans les années 80, est pas du tout le personnage qu'on connaît aujourd'hui, mais était cet homme d'affaires à succès, un peu de mauvais goût, voilà, mais quand même qui représentait ce Yuppie.
C'est
l'idole de Patrick Bateman. Il est mentionné, lui ou les membres de sa famille, ou la tour Trump, une quarantaine de fois dans le roman. Et c'est une obsession qui est un peu tournée en ridicule. C'est-à-dire que les personnages n'arrêtent pas de dire à Patrick Bateman « Mais enfin, c'est ridicule cette obsession pour Trump. Ah, j'ai vu ton héros dans la rue, alors il est très jaloux. Il a qu'une envie, c'est de se faire inviter au Nouvel An chez Trump. » Bon, ça revient beaucoup.
Sachant que Trump, c'est peut-être un peu la figure du père, puisqu'il travaille dans l'immobilier.
Ouais, il y a peut-être ça. Et il parle même du livre de Trump que Trump a publié en 1987, un des livres qui l'a rendu célèbre, qui s'appelle L'Art des Affaires, donc The Art of the Deal. Et donc, il est mentionné dans le livre en disant qu'il l'a lu, qu'il a trouvé ça intéressant. Et je crois que dans White, mais Pierre Guglielmena, qui a traduit le livre, saura sûrement mieux le dire, il revient sur le rapport de Trump et de Patrick Bateman, en s'imaginant ce que Bateman aurait pu devenir aujourd'hui, avec en sous-texte l'idée qu'il aurait pu devenir, comme Trump, peut-être président des États-Unis.
Pierre Guglielmena.
Je crois qu'on perd de vue le fait que The American Psycho est à la fois un trader, mais aussi un serial killer. C'est un aspect très important du roman, c'est-à-dire que c'est ce vacillement, cette oscillation du personnage entre une figure socialement acceptable du trader et puis cette position absolument abjecte du tueur en série. Donc c'est cet aspect-là qui est très important et qui, à mon sens, est la clé du livre et qu'il faudrait quand même peut-être pas oublier.
Bien sûr, et je vous propose justement d'écouter un extrait du roman American Psycho.
«
Un type qui ressemble tout à fait à Jason Taylor me fait un signe de tête en passant sous un réverbère et je baisse le son de mon Walkman juste à temps pour l'entendre dire « Hello Kevin ». Et sans m'arrêter, je me retourne sur l'homme qui ressemble à Taylor et manque de trébucher sur une clocharde allongée sur le sol, vautrée sur le seuil d'un restaurant abandonné. Elle est noire et elle a l'air bonne à enfermer, répétant sans cesse « De l'argent s'il vous plaît, aidez-moi monsieur, de l'argent s'il vous plaît, aidez-moi monsieur », comme une espèce de prière bouddhiste. Je tente de lui expliquer l'avantage qu'elle trouverait à prendre un emploi quelque part, dans un cinéplex Odéon par exemple, dis-je avec une grande civilité, n'arrivant pas à décider si je vais ouvrir l'attaché case, si je vais en tirer le couteau ou le revolver. Mais elle m'apparaît soudain comme une cible trop facile pour être réellement gratifiante. Et je lui dis d'aller au diable et monte le son du Walkman. Je poursuis ma route, m'arrêtant à un distributeur automatique pour tirer 300 dollars, sans raison particulière, 15 billets de 20 tout frais, craquants, que je range délicatement dans mon portefeuille en peau de gazelle pour ne pas les froisser. À Columbus Circle, un jongleur vêtu d'un trench coat et d'un haut de forme, un type qui se fait appeler Stretchman et qui se tient généralement ici l'après-midi, fait son numéro devant un petit groupe de gens qui s'ennuient. L'envie de le tuer me démange, et il ne mériterait pas mieux. Mais je passe mon chemin, à la recherche d'une proie moins voyante. Quoique, s'il avait été mime, il serait vraisemblablement déjà mort. Voilà l'apparence de gendre idéal, de Bateman cache en réalité un psychopathe qui prend plaisir à torturer des femmes et des SDF. Bateman et ses amis croisent en effet très régulièrement des sans-abri dans American Psycho, parce que les années 80, Alexia Blin, c'est une époque où sévit une crise du logement à New York et puis aussi l'épidémie de crack.
Oui, effectivement, ça c'est une des parties réalistes en quelque sorte d'American Psycho, c'est l'omniprésence des sans-abri dès le tout début du roman dans le paysage urbain. Et en fait, effectivement, les années 80 sont une décennie où il y a une crise des sans-abri à New York qui sont extrêmement visibles dans l'espace de la ville. Et en particulier en raison donc de la hausse des prix du logement, du fait que les familles n'arrivent plus. Donc, c'est-à-dire également des sans-abri qui ne sont pas que des fous et des drogués, parce qu'il y a cette épidémie de crack en effet, mais aussi juste des familles qui n'arrivent plus à se loger dans la ville de New York, qui est en grande transformation, avec les classes ouvrières qui sont vraiment chassées de la ville. Et dans le roman, donc Bateman voit ces sans-abri. Alors au début, il les compte. Ensuite, il y a tout un passage du livre où il les humilie. Il y a une violence symbolique très forte vis-à-vis des sans-abri, où il va agiter des billets sous leur nez, où il va leur demander s'ils prennent la carte American Express, leur expliquer qu'il faudrait qu'ils trouvent un travail, qu'ils doivent s'intégrer. Et puis ensuite, on passe effectivement à la violence physique, puisque une partie de ces sans-abri sont assassinés de manière très violente. Et là, on revient, je pense, à la violence physique aussi comme métaphore de la violence économique, hein, c'est-à-dire le poids de cette économie financière qui grandit et qui écrase, y compris jusqu'à les tuer, une partie de la population américaine.
Oui, ce sont des scènes de meurtre et de torture qui sont particulièrement insoutenables. Les actes sadiques de Bateman sont décrits de façon clinique. Pourquoi cela, selon vous, Pierre Guglielmina? Parce que, comme le dit Alexia Blin, ça traduit la violence économique, sociale qui caractérise cette Amérique des années 80?
Non, je crois que c'est à mettre sur le compte de l'humour très noir de Bret Easton Ellis. Ce qu'il essaye de mettre en lumière, c'est à la fois l'imposture et la corruption généralisée de la société décrite dans le roman. Et qui ne seront jamais considérés comme tels. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en dépit des efforts et des exagérations qu'il peut commettre avec ce personnage, alors que les viols, les meurtres qui sont décrits dans le même roman seront eux imputés à Ellis, qui fera l'objet d'une campagne de à la fois de dénigrement et de menaces absolument phénoménales.
Oui, il a reçu des menaces de mort, en effet. Mais alors, est-ce que vous considérez, Pierre Guglielmina, que Patrick Bateman est un alter ego de Bret Easton Ellis?
Bien sûr, Il le dit à l'époque, Patrick Bateman, c'est moi. Il reprend la formule de Flaubert avec Madame Bovary, et il dit, Patrick Bateman, c'est moi.
Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il reprend la formule de Flaubert. Je crois qu'il admire énormément les romanciers, réalistes,
sûr,
naturalistes.
C'est un très très grand lecteur. Ellis est un alter ego de Andy Warhol. C'est quelqu'un qui a énormément appris de Andy Warhol et qui donc en apparence est d'une neutralité et d'une comment dire impossible à définir.
Oui.
Mais il a des lectures absolument extraordinaires. C'est quelqu'un qui lit sans arrêt. Il y a une scène dans Glamorama extraordinaire où on découvre dans un perdu au fond d'un sac Hermès un exemplaire des commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord.
Oui, donc ça c'est l'ironie de Bret Easton Ellis.
C'est une ironie extrêmement mordante. Et c'est l'essentiel de son travail d'écrivain.
Oui, cette ironie peut-être.
Je voudrais qu'on insiste là-dessus. C'est important.
Justement, j'allais demander à Alexia Blin l'importance, la place qu'a cette ironie dans l'œuvre de Bret Easton Ellis.
Oui, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'humour et en fait c'est effectivement des romans qui peuvent être difficiles à lire à cause de la violence. Très forte. Moi-même, là, pour les jours précédents l'émission, j'en ai relu plusieurs. C'est parfois un petit peu intense quand on en lit plusieurs d'affilée. Mais en même temps, c'est aussi très drôle. Il y a aussi effectivement des prises de distance de sa part. Voilà, on va avoir, comme on parlait tout à l'heure, des personnages qui partent, qui tombent en lambeaux parce que ils peuvent pas accéder au type de consommation qu'ils veulent. Mais aussi, moi je voulais revenir sur la violence, le rapport de la violence à l'argent. Je pense pas que ce soit uniquement de l'ironie. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Enfin, qu'il y a un lien très fort qu'il fait entre le fait d'être riche et la possibilité d'être violent. Jusqu'à tuer des gens. En fait, c'est pas... Donc, il y a cette violence métaphorique, mais il y a aussi le fait que l'argent permet tout. Donc ça rejoint un peu ce que disait Pierre Guglielmina, le fait qu'il dénonce la corruption des classes supérieures avec l'idée que l'argent peut tout permettre. Et il y a une scène dans American Psycho qui reflète un peu ça, où il est dans un zoo, il se promène dans un zoo, il a commencé vraiment à tuer, il tue de plus en plus dans le roman. Et il tue un peu tout le monde et n'importe qui. Et là, il se promène au zoo et il voit un petit panneau où il y a marqué « L'argent peut tuer. Attention, il ne faut pas jeter de pièces de monnaie aux phoques. » Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Il jette des pièces de monnaie aux phoques. Et ensuite, il va tuer un petit garçon qui se promène au zoo et il lui tranche la gorge. Et en fait, cet argent peut tuer, il a deux sens à mon avis. C'est le fait que c'est une menace, hein, ça c'est très... très très présent dans les différents romans de Bret Easton Ellis, le fait que l'argent c'est menaçant, qu'on ne sait pas à quoi ça peut mener.
Mais ça offre aussi une licence.
Voilà, exactement. Et l'argent peut tuer. Et en fait, il tue cet enfant vraiment devant tout le monde. Et en plus, il va encore plus loin dans la provocation, puisqu'il se permet de prétendre qu'il est médecin en disant « Poussez-vous, je suis médecin », de prendre l'enfant dans ses bras et de regarder la mère désespérée. Et donc il y a vraiment cette idée-là. L'argent peut tuer, dans le sens où il donne la possibilité de le faire.
Et oui, la perversion va toujours plus loin. Vous parliez de cette lecture intense, elle est effectivement éprouvante, la lecture des romans de Bret Easton Ellis, en particulier celle d'American Psycho, parce que la plupart de ces narrateurs sont des anti-héros. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est la marque de fabrique de Bret Easton Ellis, c'est que ces narrateurs, sans rien divulgâcher, se révèlent souvent assez peu fiables, Alexia Blin.
Ah oui, alors ça c'est une caractéristique très très importante, effectivement, en particulier dans American Psycho, également dans Lunar Park, et également dans Glamorama, le fait qu'on ne peut pas avoir confiance dans ce qu'ils nous disent. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez important à faire dans le parallèle avec la finance, hein, encore une fois, c'est quelque chose d'imprévisible.
Cet aspect mystérieux,
qui magique
de la finance.
Peut nous mentir, quoi.
Pierre Guglielmina.
Oui, sur ce sujet, il y a une phrase extraordinaire de American Psycho qui est la suivante. Le livre était digne de confiance et je ne l'étais pas.
Oui, tout est dit.
Tout est dit, exactement.
Une citation est placée en exergue du roman American Psycho. « And the thing fell apart, nobody paid much attention. Une chose s'effondra, personne n'y fit vraiment attention. » C'est un extrait d'une chanson des Talking Heads, « Nothing but Flowers ». « France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie. Selon le romancier américain Bret Easton Ellis, le traducteur Pierre Guglielmina et la maîtresse de conférences en civilisation américaine Alexia Blanc sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide de Denis Forget, mise en onde aujourd'hui par Anthony Thomasson. Pierre Guglielmina, vous avez traduit 4 romans de Bret Easton Ellis, dont son dernier, Les Éclats, sur lesquels on va revenir. Mais d'abord, arrêtons-nous quelques instants sur Glamorama, qui est paru en 1998. C'est un roman dans lequel Ellis continue à explorer les thèmes de la célébrité et de l'aliénation dans la société moderne.
Oui, c'est même à mon sens encore plus poussé qu'American Psycho. C'est un roman encore plus radical qu'American Psycho. Le personnage principal, Victor Ward, étant à la fois un patron de boîte de nuit et un terroriste. Ce qui est très intéressant dans Glamorama, c'est que l'univers d'action s'étend à la planète entière, puisque Victor Ward circule entre New York, Paris, Milan, le Japon. Donc on a un spectre en quelque sorte élargi qui correspond assez bien à la situation historique. Donc de ce point de vue-là, Glamorama est un roman magistral à mon sens.
Et c'est un roman dont la narration est fragmentée, et cela pour refléter le chaos, la confusion du monde contemporain, Pierre Guglielmina.
Alors j'ai une sorte de petite théorie sur cette affaire, c'est que le miroir est un élément dramatique essentiel de l'œuvre de Bret Easton Ellis, puisque dans Moins que zéro, on avait une affiche sur Sunset Boulevard qui disait « Disparaître ici ». Et cette affiche, tout à coup, se transfère dans les romans suivants sur une glace de salle de bain. Et c'est un transfert évidemment très intéressant, puisque, comme dit Warhol, si un miroir regarde un autre miroir, que peut-il bien voir ? Évidemment, le néant. Ou l'infini, selon l'humeur du jour. C'est cet aspect-là qui détermine en quelque sorte la progression, parce que c'est une œuvre très pensée qui est écrite avec le temps qu'il faut et qui est très concertée de la part d'Ellis. Les romans se succèdent les uns aux autres et ce miroir en quelque sorte évolue dans la dramaturgie d'Ellis pour finir dans Les Éclats, c'est-à-dire que le miroir a explosé en quelque sorte.
Pourquoi, selon vous, Alexia Blanc, Bret Easton Ellis explore-t-il ainsi cette thématique de la célébrité dans Glamorama?
Ouais, c'est un autre secteur de la richesse américaine, quoi. Un des intérêts de Bret Easton Ellis, c'est effectivement qu'il décrit le mode de vie des riches américains des années 80-90 en particulier. Donc, on a dans Moins que Zéro, les enfants de l'industrie du cinéma de Californie. Dans On a les traders et le monde de la finance dans American Psycho. Et on a ce monde des boîtes de nuit et du mannequinat, en gros, dans Glamourama. C'est une autre facette du monde du luxe et de la consommation ostentatoire qu'il explore. Effectivement, la spécificité de Glamourama, c'est cet ancrage international, alors que les autres romans sont très... très ancré soit à Los Angeles, soit à New York. Là, il va un peu plus loin, mais la mondialisation, elle était déjà un peu présente dans des romans précédents, notamment avec la figure toujours très inquiétante du Japon. Dans American Psycho, Patrick Bateman déteste le Japon et les Japonais, et notamment à cause de la rivalité économique qui apparaît à ce moment-là entre le Japon et les États-Unis. Dans un recueil de nouvelles qu'il a publié en 1994, qui s'appelle Zombie, il y a une nouvelle qui se situe au Japon, avec une rockstar qui va faire une tournée au Japon, et ça se passe très mal, et il y a une espèce d'inquiétude. Bon. Et donc là, le cadre international, on le retrouve dans Glamourama, dans le contexte d'une organisation terroriste internationale particulièrement inquiétante également.
Dans l'œuvre de Bret Easton Ellis, domine l'ennui et la désillusion, c'est le cas. Dans un autre de ses romans, qui est paru en 2005, Lunar Park, que vous avez traduit, Pierre Guglielmina, extrait. L'aventurier sexuel, beau et vif, avait été remplacé par un ringard approchant la quarantaine, dévoué à ma femme comme un esclave. C'était le résultat inévitable d'un vieillissement précoce et de l'ennui et du fait d'avoir une belle femme. Après avoir dit au revoir aux enfants, Robbie était vautré devant l'écran plasma géant et nous a à peine remarqué, tandis que Sarah étudiait le profil d'une œuvre de Sa Majesté des Mouches, Jane et moi nous sommes retrouvés dans les Elsinore Lane. Et pendant notre bref trajet, elle m'a patiemment rappelé qui était qui et ce que chacun faisait, puisque je semblais toujours oublier, ce qui, dans ce cercle d'amis, ne se faisait pas. Mitchell appartenait comme par hasard à la communauté des banquiers d'affaires, tandis que Mark Huntington faisait construire des terrains de golf. Un petit groupe de bons pères de famille, tout simplement, vivant dans l'atmosphère douce et rêvée de la richesse que nous avions tous créée, en compagnie de nos épouses, d'une beauté générique, essayant d'assurer la parfaite ascension de nos enfants dans le monde. Alexia Blin, avec Lunar Park, Bret Easton Ellis explore un thème classique de la littérature états-unienne, la désillusion du rêve américain.
Oui, et en particulier de la vie dans les banlieues, hein, parce que donc là, il vit plus dans une grande métropole, mais il s'est installé dans une banlieue avec sa femme et un fils qu'il s'invente, parce que donc la particularité de Lunar Park, c'est qu'il se met en scène lui-même. Le personnage est Bret Easton Ellis. Le roman commence, on l'a dit tout à l'heure, par un retour sur sa carrière littéraire et ensuite bascule dans la fiction à un moment difficile à déterminer. Et il vit donc dans cette banlieue où, au départ, il présente ça comme une espèce de salut de la vie agitée qu'il menait avant, par rapport à la vie agitée qu'il menait avant. Et finalement, ça va tourner au cauchemar, d'abord par un ennui très fort et puis comme d'habitude, une série de meurtres est très violent. Mais là, dans l'extrait que vous avez lu, il y a plusieurs choses qui sont très significatives. En fait, c'est une scène qui précède un dîner qui va avoir lieu avec les voisins, où Bret Easton Ellis va s'ennuyer à mourir. Et il a un regard donc très critique sur cette vie très conformiste. Il parle de la beauté générique des femmes, du fait que... tout le monde est préoccupé par l'ascension des enfants. Dans cette scène, il va parler du fait qu'il est outré par le fait que les parents attendent un retour sur investissement, il emploie cette expression, de l'éducation des enfants. Et en fait, ça, pour le coup, c'est peut-être ce qu'il y a de moins original par rapport aux autres ouvrages dont on a parlé précédemment. Il y a beaucoup de livres, de beaucoup d'auteurs qui ont critiqué depuis les années 1920, en fait, la vie, on peut penser à Sinclair Lewis avec Babbitt dans les années 1920, qui critique le conformisme de la vie des banlieues. Donc, mais bien sûr, il n'y a pas que ça dans Lunar Park, mais cet aspect-là, il est finalement moins original. Simplement, on ne s'attend pas forcément à le voir chez Ellis ou pas sous cette forme spécifique.
Et c'est un roman qui est intéressant quand on connaît un petit peu Bret Easton Ellis, puisque il évoque son rapport à sa propre richesse et son succès dans Lunar Park, Pierre Guglielmina.
Je ne suis pas du tout d'accord avec la vision développée. Je crois que Lunar Park, c'est une variation très, très, très subtile sur Hamlet de Shakespeare. Elsinore Lane est une indication. Elsinore, on voit très bien où il va. Et je crois que c'est un livre sur la fin de la famille nucléaire. Je crois que il y a une série de décompositions qu'observe Ellis, la fin de la famille nucléaire, la fin de la société patriarcale dans Suite impériale, et puis les éclats, c'est la fin du narcissisme en quelque sorte. Donc c'est très élaboré, c'est très pensé. Et je crois que le génie d'Ellis, c'est évidemment son génie de la dissimulation. Il faut passer beaucoup de temps sur les livres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout une littérature de la consommation facile. Il faut passer du temps sur Ellis parce que il y a énormément de choses cachées qui n'apparaissent qu'à la lecture et à la relecture des livres.
Et à la relecture, vous avez raison, parce qu'en effet, oui, ces personnages sont extrêmement ambivalents. On ne sait jamais si on peut leur faire confiance. Et on retrouve cela dans son 8e roman, Les Éclats, qui a été publié aux États-Unis en 2021.
Tellement de gens le considèrent comme étant un thriller de tueur en série, comme un livre de mystère, comme un roman policier. Et cet aspect, bien sûr, c'est lié au drame des adolescents, le drame de ma propre vie, parce que tellement de ce livre est autobiographique. Il y a tellement de ce livre, c'est être un adolescent en 80 dans un lycée prestigieux avec tous ses copains de Beverly Hills. Il pense qu'il est ciblé par un tueur en série qui est en fait ce très bel étudiant qui vient à l'école. Moi, je suis intéressé par cet aspect parce que ce livre, c'est un livre sur l'obsession. Brett, le narrateur, est obsédé par ce nouvel étudiant. Et Brett crée des récits à ce sujet. Je crois que c'est une image d'un Los Angeles perdu de 1981 que ce ne serait un roman policier ou un roman sur un tueur en série. Mais c'est ça qui excite les gens au sujet du livre. Moi, je suis beaucoup plus enthousiasmé par le sexe des adolescents, hein, de décrire ça. Mais ça, c'est moi, hein, j'ai 59 ans.
Bret Easton Ellis au micro d'Olivia Gesbert dans Bienvenue au Club sur France Culture le 5 avril 2023. On arrive au terme de cette discussion. Les éclats, Pierre Guglielmina, c'est moins que zéro qui rencontre American Psycho.
Oui, c'est un retour à la date de 1981 qui apparemment est une date clé pour Bret Easton Ellis, c'est-à-dire que quelque chose bascule dans l'histoire américaine en 1981 pour lui, et il revient sur cette période pour décrire quelque chose qu'il n'avait pas vu à ce moment-là, et qui est précisément ce que j'ai appelé la fin du narcissisme, c'est-à-dire c'est ce miroir qui éclate et qui fait que plus personne ne peut se reconnaître et s'identifier dans un miroir. C'est l'aspect essentiel, à mon sens, du roman.
Et c'est un roman absolument fascinant. Peut-être un tout dernier mot, Alexia Blin, sur ce que l'œuvre de Bret Easton Ellis nous apprend sur l'économie américaine.
Bon, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être c'est intéressant de voir qu'il revient en 1981 à la fin, dans le dernier roman, puisque 1981, c'est l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan également. Et ça, on voit que ça, c'est un personnage quand même en toile de fond. Dans American Psycho, il y a une citation où il dit Ronald Reagan était toujours à la télévision. Et il y a ce bruit de fond des années 80 et de la financiarisation qui est permanent. Et bon, certes, c'est pas le thème des éclats, mais mais on reste dans ce contexte quand même très profondément.
Et sur ce que cette décennie des années 80 a produit et a fait à la société et l'économie américaine. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant, Alexia Blin et Pierre Guglielmina. Merci. Je renvoie les auditeurs au roman de Bret Easton Ellis qui sont absolument fascinants, en particulier effectivement Les Éclats et Lunar Park, vous nous conseillez Alexia Blin, et puis je précise que vous êtes l'autrice d'une thèse intitulée Politiser l'entreprise, une histoire des coopératives dans le Wisconsin, années 1870-1930. Un grand merci encore. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Monaco, le nouveau titre du groupe britannique Ride. Demain, Aliette Tovine recevra Guillaume Allègre pour son essai « Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale » paru aux presses universitaires de France. Puis elle reviendra sur la vulnérabilité des cargos et la menace que cette fragilité fait peser sur le commerce international avec Isabelle Méjean et Antoine Frémont. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho et en vidéo sur YouTube.